Good Morning Business, le grand débat.
Le grand débat aujourd'hui, c'est avec Hervé Gouletker, conseiller économique du cabinet Accuracy. Bonjour. Philippe Vivien, directeur général d'Alixio. Bonjour. Et Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business, qu'on connaît bien sûr tous par cœur. Enfin, très bien en tout cas.
Alors, est-ce que la France est bloquée? Est-ce qu'avec ce passif de la réforme des retraites adoptée par 49.3, on peut encore faire quelque chose dans ce pays? Il reste quand même 4 ans dans le quinquennat. Alors, est-ce que c'est un quinquennat perdu, gâché? Philippe.
Il reste 4 ans, mais dès aujourd'hui, dans toutes les entreprises, ça transforme. Enfin, je veux dire, on voit deux secteurs principalement bloqués, les transports globalement et l'énergie. Oui. C'est pas nouveau. C'est un premier point. Et on voit qu'aujourd'hui, dans les entreprises, bien du dialogue social, les entreprises se transforment, continuent de recruter, continuent de faire leur business au quotidien. Et on ne voit pas aujourd'hui de grandes difficultés de négociation à l'intérieur des entreprises. Alors les entreprises, elles ont l'habitude, elles savent bien qu'il y a 3 niveaux. On travaille, on s'informe, on consulte, on négocie. Les règles du jeu sont claires, on le fait tous les mois pour l'information et la consultation. La négociation, c'est plus compliqué. Au niveau des branches, on n'entend pas grand-chose aujourd'hui. Je crois que ça peut être un des sujets de relance de la négociation. Quand on parle de pénibilité, quand on parle de sujets qui sont spécifiques à des activités, ça peut véritablement faire partie du sujet. Là où ça risque d'être plus compliqué en matière de dialogue social, c'est le niveau national.
Ouais.
A contrario, on a démontré à travers l'accord sur le partage de la valeur que c'était possible. Alors après, c'est plus facile de négocier sur le partage de la valeur que sur la réforme des retraites. Ça faut aussi, balancer...
Ou que sur le travail ou sur l'immigration, par exemple.
Là, sur le travail, ça va être un des vrais sujets. Je pense que ça va être un beau cas d'école pour savoir si on est capable de reprendre au niveau national une négociation qui va structurer le rapport au travail et la façon dont on va travailler.
On a presque l'impression qu'il n'y a qu'entre syndicats qu'on discute, même avec le patronat. C'est-à-dire que là, ça se passe bien, alors qu'au Parlement, on ne peut pas se parler.
Je pense que on a beaucoup tapé sur la démocratie sociale, souvenez-vous, il y a quelques années. Elle était terminée, c'était fini, il n'y avait plus de syndicats. Aujourd'hui, on voit que ça fonctionne. Enfin, j'ai eu l'honneur de présider l'AGIRC pendant 6 ans. On a réussi à réformer l'AGIRC, à faire en sorte que l'AGIRC et l'ARCO fusionnent. On a réussi à faire en sorte de maintenir un niveau de réserve tout à fait acceptable. Je crois qu'il faut qu'on se mette dans une situation où les règles du jeu sont claires. L'avantage dans les entreprises, c'est que les règles du jeu sont claires. Dès qu'on est dans un tripartisme avec le gouvernement, c'est systématiquement plus compliqué.
Emmanuel Lechypre.
Il y a un héritage de notre dialogue social qui est un héritage d'abord conflictuel. C'est-à-dire que les syndicats, historiquement, en France, sont des syndicats qui vont à la confrontation plus qu'au dialogue. Ça, c'est comme ça, c'est notre histoire qui est comme ça. L'autre caractéristique quand même historique de notre dialogue social, c'est le rôle trouble que joue l'État depuis toujours. C'est-à-dire entre arbitres, influenceurs, partenaires, etc. Ce qu'on a vu sous Emmanuel Macron, c'est quand même une forme d'état étatisation des rapports entre partenaires sociaux. Reprenez, par exemple, la reprise en main de l'assurance chômage, où là, effectivement, il a quand même amoindri les syndicats. Son bilan en matière de démocratie politique, de dialogue politique et de dialogue social à Emmanuel Macron, il est quand même assez contestable. Il a quand même détruit une partie des partis politiques. Il a quand même finalement anesthésié le rôle des syndicats, notamment au niveau national. Donc c'est vrai qu'au niveau local, ça se passe bien. C'est une des raisons pour lesquelles on va sans doute finalement sortir assez calmement de cet épisode, puisque quand vous comparez ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est passé lors des précédentes réformes des retraites, on est finalement dans un schéma assez classique, à part peut-être le 49.3 où mais globalement il y a toujours eu des tas de manifestations et beaucoup plus qu'aujourd'hui, que ce soit 2003, 2010, il y avait plus de manifestations. Les Français n'étaient pas pour la réforme et la réforme a fini par s'imposer malgré les mécontentements. Donc on est finalement dans des schémas.
Il y en a qu'un qui joue pas le jeu, c'est l'État en fait dans le dialogue social. Hervé Gouletker.
Moi, j'ai l'impression qu'entre le social et le politique, il y a quand même une difficulté. Parce que, on dit les syndicats, ils remplissent leur rôle. Et dans les entreprises, je suis d'accord qu'ils remplissent leur rôle. Mais on voit bien que lorsqu'on parle de grands choix du pays, il y a quand même une collusion entre le social et le politique.
Ouais.
Et c'est pas facile pour les syndicats de prendre cette posture. Faut bien voir que dans la tradition des syndicats français, depuis la charte d'Amiens, normalement, il y a une autonomie autonomie, il y a une indépendance entre le social et le politique. Et aujourd'hui, il y a forcément une confrontation entre les deux thèmes. Et on voit bien que ça rejaillit, à mon avis, à un double niveau. Le premier niveau, c'est que en fait, on nous parle d'une démocratie directe, on nous parle d'une démocratie intermédiaire, mais on ne sait pas très bien sur quel sujet. Moi, j'ai quand même l'impression que les sujets économiques et financiers devraient plutôt participer de la démocratie intermédiaire. C'est au Parlement de s'emparer ça. Par contre, sur des sujets qui ont une dimension, je dirais, plus morale, plus fondamentale, que la démocratie directe marche. Et je pense que dans ce jeu-là, on ne sait pas très bien où sont les frontières. Et puis, ce qui est nouveau par rapport à la fresque historique que nous rappelait Emmanuel, c'est qu'aujourd'hui, au Parlement, il y a quand même un niveau de confrontation qu'on avait moins ailleurs. Et ça rend les choses plus compliquées quand il faut qu'on aille par une démocratie intermédiaire et qu'au Parlement, ça bloque.
Alors, est-ce qu'on va justement pouvoir réformer au cours des 4 prochaines années du quinquennat ? On a posé la question tout à l'heure à Antoine Fouché, président de Quintet Conseil, l'ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud. Écoutez sa réponse.
Je prends le pari là devant vous, on est mi-mars, que avant la mi-avril, il y a une réunion avec les partenaires sociaux sur l'agenda social. Ils vont pas refuser de venir dialoguer avec le gouvernement, d'autant que, et encore une fois, ils sortent d'une séquence là où ils ont été très très forts, très dignes, très bien organisés. Ouais. Ils ont montré par contraste une image de responsabilité par rapport au bazar, pour rester poli, qu'il y a eu au Parlement. Et donc ils sont en position de force. Donc ils ont aucun intérêt à dire, bah, écoutez, vous nous avez pas écoutés, donc maintenant on reste chez nous et on va plus à Matignon.
Philippe Vivien, vous partagez ce constat ?
Je partage tout à fait ce que dit Antoine. Après, la vraie question, c'est pas venir ou pas venir, ça va être venir pour quoi faire. Ben oui. Et je pense qu'ils ne viendront pas uniquement sur un thème de méthode ou d'agenda social.
Ouais.
La question, ce sera quel est le contenu de
Est-ce qu'il y a du grain à moudre ?
Pourquoi faire ? Exactement. Ben oui. Est-ce qu'il y a du grain à moudre ? Est-ce qu'on change un certain nombre de règles du jeu ? Je pense qu'il va falloir que ce soit clarifié en amont. Et là où je suis un tout petit peu moins optimiste qu'Antoine Fouché, c'est que je pense qu'il va falloir que tout le monde travaille en off avant. C'est-à-dire qu'avant d'organiser cette grande rencontre, il va falloir qu'on se mette d'accord, il va falloir qu'on se parle en bilatéral, il va falloir qu'on prépare, je dirais, cette ingénierie qui va permettre que cette réunion soit fructueuse, qu'elle prépare justement un agenda social. À défaut, si c'est pour qu'après tout le monde reparte sur le perron de l'Elysée en disant...
Mais ça veut dire maintenant, parce que la loi travail, c'est la fin du mois de mars. Hein.
Ben, ça veut dire qu'il faut probablement être capable de retisser les liens extrêmement rapidement.
D'ailleurs, ce qu'on vit est le fruit... globalement aussi d'un délitement, d'une déperdition considérable de qualité de tous les aspects immergés de l'iceberg du dialogue social. Et c'est exactement ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'en gros, il faut rappeler la qualité des textes qui sont proposés aujourd'hui en projet de loi est extrêmement médiocre. C'est-à-dire qu'il y a une déperdition de la qualité des textes. Pourquoi ? Parce que ces textes, habituellement, ils étaient quand même, et notamment les textes sociaux, étaient le fruit de dialogues extrêmement précis.
Donc on va trop vite, tout simplement.
Non, mais il y a aussi plus les compétences. C'est-à-dire dans les ministères, vous n'avez plus les gens qui sont capables de faire les lois.
Vous avez dit la même chose.
Dans les syndicats, vous n'avez plus les gens qui sont capables, qui ont l'expertise pour faire ces lois. Et donc, résultat, vous arrivez avec des projets de loi qui sont bancals, avec des projets de loi qui ne sont
Regardez la réforme des retraites.
Et typiquement, c'est exactement le cas. Et donc, on voit bien que, si vous voulez, prenez avant les articles de loi, en gros, il y a des circuits qui sont les experts dans les syndicats de salariés, les experts dans les syndicats patronaux, éventuellement des cabinets d'avocats qui sont sollicités par les uns et les autres pour finalement faire des... Là, franchement, on est dans un amateurisme et dans une baisse de compétences qui est totale et qu'on retrouve même à l'Assemblée avec des députés voilà.
Ça veut dire, Philippe Vivien, que les experts sociaux ils veulent plus aller bosser dans les syndicats, ils vont dans les cabinets privés comme
ils veulent plus aller dans
les on les accueille avec beaucoup de bienveillance.
Il y a un sujet quand même.
Mais au-delà de ça, je crois que véritablement, enfin, je veux dire, l'expertise, on peut la trouver. La question, c'est la confiance. Comment on est capable de mettre sur la table des textes, je dirais, en préparation, sans qu'immédiatement ils sortent et que tout le monde...
Regardez le texte sur l'immigration. Est-ce qu'il faut régulariser ? Et comment on fait pour les métiers en tension ? C'est un texte explosif. Comment on va réussir à en discuter ?
C'est un vrai débat de société. Là, on n'est pas au niveau de l'entreprise. C'est un vrai débat de société.
Il y a quand même un espoir. C'est qu'en fait, ce qu'on voit bien, c'est parce qu'on dit les syndicats, on les présente comme les grands sages là, du mouvement social. Intellectuellement, ils sont nuls.
C'est-à-dire, intellectuellement, on a l'impression... Non, mais grosso modo, on a eu une réforme qui était faite pour la France d'il y a 40 ans, avec des contre-propositions des syndicats qui étaient faites pour la France d'il y a 70 ans. Voilà. Et donc, ils n'ont pas réfléchi non plus. Donc, qu'on arrête de les présenter comme les grands sages. Intellectuellement, c'est minable.
Allez-y, contredisez Emmanuel, parce
c'est qu'ils n'ont rien, ils n'ont rien fait sur tous les sujets qui concernent les vrais défis du marché du travail
mais
du 21e siècle.
Mais moi, quand on dit que tout le monde est nul, ça me ferme mes oreilles.
Mais c'est parce que vous n'avez aucune proposition qui correspond à la réalité du marché du travail d'aujourd'hui et de demain. Quid des technologies, etc., etc. Le débat sur la pénibilité, ça fait 40 ans que ça dure, ça n'avance pas. Donc voilà.
Hervé Gouletker.
Hervé et Philippe.
Moi, je voudrais juste dire que c'est vrai qu'il faut ouvrir le débat sur le marché du travail. En bonne rationalité, ça aurait même été mieux de le faire avant d'ouvrir le débat
sur les retraites. Bien sûr.
Mais en fait, pour le problème central qu'on a, c'est qu'on a un taux d'emploi des seniors, allez, de 55-64 ans, si on ose employer le terme de 64 ans, qui est de 15 points, même 16, inférieur à celui de l'Allemagne. En fait, la question collective que l'on a, c'est comment on fait pour que ce taux d'emploi, il augmente. Et il faudra que chacun aille dans le jeu de propositions avec l'esprit ouvert. Est-ce que les entreprises jouent le jeu ? C'est pas simple. Est-ce que les représentants des salariés jouent le jeu ? C'est pas simple. Et c'est là où l'État pourrait avoir un rôle, parce que finalement, son intérêt, c'est que ça marche, et il faut qu'il arrive à faire comprendre à ses deux protagonistes, voilà, que c'est qu'il faut aller dans cette direction. Mais il y a un tel vécu des décennies passées que, en fait, revenir là-dessus, faire preuve d'imagination sur l'employabilité des seniors, c'est quand même quelque chose de compliqué. C'est à la fois de l'économique et du culturel, quoi. Il faut se remettre dans un état d'esprit différent.
Et là où c'est compliqué, Hervé, c'est que ça arrangeait bien tout le monde.
Exactement.
On avait
les syndicats, les entreprises,
on a vécu,
l'État.
Exactement. On a vécu
et les salariés.
30, on a vécu 30 ans avec un régime qui était le régime de la pré-retraite ou des fins de carrière, je dirais, non travaillées pas mal dans pas mal d'entreprises. Et ça, c'est un désastre. Faut oser se le dire, c'est un désastre absolu.
Allez, autre sujet, deuxième sujet de notre débat, évidemment, c'est la décision de la Réserve fédérale américaine attendue pour ce soir. Alors, est-ce qu'elle va continuer à augmenter les taux ? Est-ce que cette hausse des taux est un problème, d'ailleurs, pour tout le système financier et bancaire ? On a posé la question à Félix Brassac, le président de la Fédération des banques françaises, directeur général du Crédit Agricole. Écoutez sa réponse.
Nous savions, j'ai dit et répété, que la période la plus difficile sur le plan économique serait après la crise Covid, parce que les temps sont plus durs, les soutiens se retirent, les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc ce paradigme, on le connaît, il est moins, porteur, c'est paradoxal, que pendant la crise Covid, mais c'est pas particulièrement anxiogène, c'est absolument nécessaire, notamment pour lutter contre l'inflation.
Hervé Gouletker, la Fed est clairement face à un dilemme. Est-ce que j'arrête de monter les taux parce que j'ai une crise bancaire ? Est-ce que je continue parce que j'ai toujours de l'inflation ? Comment voyez-vous un peu la réunion de ce soir ?
Alors c'est même un trilemme et pas un dilemme, parce que il y a à la fois la question de l'inflation, il y a quand même la question du marché du travail et donc de la croissance, et il y a la question de la stabilité financière. Ça fait beaucoup. Et alors on peut se dire que tout ça c'est contradictoire, mais en fait Christine Lagarde l'a quand même rappelé la semaine dernière. Non, en fait c'est pas contradictoire, c'est des objectifs différents. Et en fait, en politique économique, hein, lorsque vous avez plusieurs objectifs, c'est bien d'avoir plusieurs instruments. Parce que sinon, si on dit « j'ai qu'un seul instrument », c'est le maniement des taux d'intérêt, là, vous êtes perdu parce qu'il faut monter dans un cas, faut pas monter dans l'autre. Donc, je pense que dans la réaction suite au problème de la Silicon Valley Bank, on a déjà un peu la feuille de route de la Fed, c'est-à-dire la lutte contre l'inflation, ça se fait avec remonter les taux d'intérêt. Et le problème de l'inflation aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis, c'est un problème sérieux. Aujourd'hui, on n'a pas du tout les garanties que ça ralentit.
Vous avez vu au Royaume-Uni ce matin, 10,4% en février, ça augmente encore par rapport à janvier.
Non, mais le problème est compliqué, peut-être qu'on en reparlera. Donc, la Banque centrale américaine, mais aussi les autres, ne peut pas dire « je pondère ce sujet plus bas parce que j'ai d'autres difficultés ».
Donc l'autre outil, c'est les liquidités.
Voilà. Et l'autre outil, c'est jouer de la taille du bilan. Et on voit bien, aujourd'hui, donc, il y a eu les liquidités proposées aux banques dans le cadre de la résolution de la crise SVB. Mm-hmm. Mais on voit bien qu'il y a un peu de contradiction, parce que à la fois, on veut retirer de la liquidité long terme, on réduit la taille du portefeuille d'obligations détenues. À la fois, on veut augmenter la liquidité court terme, les injections que l'on propose au système bancaire. Et donc, là, on tire un peu à U et à DIA, et ça serait peut-être bien de préciser ce qu'on veut faire, parce que sur Le marché obligataire, il y a quand même un problème de liquidité, et la Fed a sa part là-dedans. Il y a un problème de volatilité. La volatilité des obligations est extrêmement élevée aujourd'hui. Donc, à mon avis, du côté liquidité plus marché obligataire, il y aurait peut-être une précision à faire. Quant au troisième élément, la croissance, ben, je pense que la Banque centrale prie pour que la confiance se maintienne. Et les derniers indicateurs de confiance, que ce soit du côté des entreprises ou des ménages, ne sont pas très bons.
Bon, Emmanuel Le Chypre, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? 0, 0,25, 0,50 ?
Ah, je pense que c'est pas mal d'envoyer le signal que ça va quand même être bientôt bientôt terminé.
Et donc ralentir un peu.
0,25.
Oui, après effectivement, c'est toujours cette idée de rythme qui a été quand même très élevé, que c'était illusoire de penser que le resserrement monétaire aussi violent se passerait sans craquement. Et là, je pense que le risque le plus important, l'incertitude la plus importante, c'est pas l'impact de cette hausse des taux d'intérêt sur le marché du travail. On sait à peu près l'évaluer. C'est pas l'impact sur l'inflation, on sait à peu près l'évaluer. C'est l'impact sur le système financier. C'est-à-dire, ouais, est-ce qu'on crée des ondes de choc? Est-ce qu'on crée des risques de catastrophes? Donc, moi, je pense qu'il faudrait attendre de voir un petit peu ce qui se passe sur le marché, sur les marchés financiers, avant peut-être de continuer.
Bon, en tout cas, sur la question de la crise bancaire européenne, Philippe Brassac s'est voulu plus que rassurant. Il a même dit ce mot crise, je n'en veux pas. Ouais. Écoute.
Je suis désolé, il n'y a pas de crise bancaire. Il y a des banques qui sont en difficulté, et certaines d'entre elles très lourdement en difficulté, mais ce sont toujours pour des raisons qui leur sont propres. Il n'y a aucune propagation. Si on parle des banques américaines, la banque B n'est pas en difficulté du fait de la banque A, et il n'y a pas de mécanisme de contamination, de contagion dans le système. Qu'il y ait des entreprises bancaires en difficulté localement, c'est évident, mais le fait qu'il n'y a pas de mécanisme de contagion, il n'y a pas de mécanisme, interdit cette appellation très anxiogène du terme crise bancaire. Donc,
oui, il n'y a pas de contagion. On a quand même vu que Lazard Frères avait quand même perdu 142 millions d'euros dans les fameux cocobondes. Alors, ce n'est pas une banque, c'est une gestion. Enfin bon, il y a quand même des dommages collatéraux.
Ouais. Hervé. Brassac est dans son rôle de dire cela. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est vrai. On espère qu'on est dans le spécifique. Du côté américain, on le croit. Du côté du Crédit Suisse, on a envie de le croire. Mais ce qui est important de noter, c'est tout de même que... on a des schémas de crise bancaire en tête. Habituellement, on découvre une perte sur une partie de l'actif d'une banque. Et puis ça, on sait gérer parce que la réglementation a été mise en place pour gérer cela. Mais quand on prend l'histoire du Crédit Suisse, justement, c'est une crise d'un genre qu'on ne connaissait pas. Et donc, quand on parle de crise qui est spécifique, ça impliquerait qu'on sait exactement comment une crise se passe. Or, avec le Crédit Suisse, on a un début de problème qui est particulier, et donc faut quand même.
On sait pas.
Sauf qu'il y avait une crise financière, ne commence jamais comme la précédente.
Non mais c'est bien le problème.
C'est toujours ça le problème.
Donc en fait on n'en sait rien, c'est ça que vous nous dites.
C'est toujours ça le problème. Bah oui, parce que
il faut rester prudent tout au moins.
Il y a des discours de techniciens, et puis vous pouvez rien y faire. Et en matière bancaire, encore plus que dans le reste de l'économie ou de la politique ou du dialogue social, il y a cette affaire de confiance. Or on peut pas s'empêcher d'avoir en tête, comme le dit Hervé, les scénarios des précédentes crises, où vous avez toujours une banque par-ci par-là, vous avez finalement aussi des banquiers qui vous tiennent des discours rassurants. Mais Hervé, il avait un indicateur qui était très intéressant.
Ah oui, non, ça c'était pour le côté
pour voir quand ça commence à sentir mauvais.
Alors,
pour le côté américain, lorsque vous voyez que des banques qui n'ont rien à voir avec le secteur de l'immobilier contractent une dette auprès de la Federal Home Loan Bank, qui est en fait une banque publique qui assure la liquidité aux banques commerciales, ouais, pour l'immobilier.
Est-ce que c'est le cas aujourd'hui?
C'était le cas de SVB qui avait brusquement eu 19 milliards de prêts court terme auprès de la Federal Home Loan Bank.
Merci à tous les trois. On va surveiller.